à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et on s'intéresse ce matin à une pratique multimillénaire codifiée par Patanjali deux siècles avant notre ère et qui rassemble des centaines de millions d'adeptes à travers le monde, le yoga, une pratique qui relie le corps et l'esprit et une grande variété de styles, du hatha yoga au bikram. Le yoga, un moyen de faire circuler la vie en nous et qui détient de multiples bienfaits pour l'esprit. Nous verrons pourquoi le yoga est bénéfique pour le cerveau, de quelle façon peut-il aider à faire face à la dépression, à l'anxiété ou encore à un stress post-traumatique. Que nous dit la recherche scientifique? Quel type de yoga choisir pour jouir de ses bénéfices? Une émission en partenariat avec le mensuel Cerveau et Psycho. Nos experts attendent vos questions sur les bienfaits du yoga au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Vous retrouverez les questions de Marie-Laure Zonchan, les questions pertinentes de Marie-Laure de Femme Actuelle. Elle est déjà dans la position du triangle. Hein, Marie-Laure?
Je tiens.
Lui est plutôt un adepte de la position du lotus. Notre maître Yoda, Christophe André.
Moi, j'essaierai de vous parler de flexibilité, celle du corps, merci le yoga, et celle de l'esprit, merci la méditation.
Et on retrouve vos choses vues, c'est les dernières de la saison, hein, vers 11h-20. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
On commence avec la grenouille prétentieuse. Yoga fête, yoga fête, le podologue bavard. On met notre pied à la bouche. Le pied à la bouche. Le chien dressé. Notre position canine favorite. Le chien penché. C'est parti pour le chien à trois pattes. Oh, que c'est triste un chien à trois pattes. Mais vous savez ce qui fait encore plus mal au cœur? Un chien à deux pattes et il est dans sa charrette à papattes. Sa petite brouette faite main et il pousse pour avancer. On pousse jusqu'à la position du lotus. Et on sent l'énergie positive tout autour de nous. Et ce flot d'énergie positive, on s'y accroche sereinement. Il y a une vraie négativité dans le monde, les filles. Mais souvenez-vous, l'espace négatif peut être vivable dès lors que vous suivez la voie du yoga, que vous respirez la voie du yoga.
Extrait du film Yoga Others. Bonjour docteur Lionel Coudron.
Bonjour.
Vous êtes médecin et professeur de yoga, vous dirigez l'Institut de Yoga Thérapie et parmi vos nombreux ouvrages, on peut lire avec profit la Yoga Thérapie publiée chez Odile Jacob. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuroscientifique de formation, rédacteur en chef de l'excellent mensuel Cerveau et Psycho avec à la une ce mois-ci Yoga, Tai Chi, Qigong, comment ces pratiques renforcent notre cerveau. Lionel Coudron, qu'est-ce que le yoga? D'après le Robert, le yoga, c'est la doctrine et les exercices traditionnels hindous qui cherchent à réunir l'individu avec le principe de toute existence. Yoga qui vient du mot sanskrit, jonction, lien. Mais encore.
Encore, c'est une pratique qui s'inscrit justement dans l'application du corps associé à la conscience de ce que l'on est en train de faire. Et le tout pour relier ces deux éléments, la respiration, le souffle. Et on va prêter attention à ce que l'on ressent dans son corps. Et c'est ce mélange-là qui donne le yoga. Donc c'est vraiment une pratique concrète. Et c'est une façon de pouvoir retrouver un état de calme, de paix.
Alors le yoga traditionnel est originaire d'Inde. Il remonte peut-être à 5000 ans. Et on doit beaucoup à un savant indien, Patanjali, qui a écrit le Yoga Sutra et qui pose les bases fondamentales de cette discipline.
Alors, il y a plusieurs milliers d'années, il y a 3-4 000 ans, le yoga, c'était une philosophie qui essayait de comprendre les liens qui relient l'être humain à l'univers. Donc, c'était du même titre, je dirais, que toutes les philosophies que l'on va retrouver également en Occident. Et puis, progressivement, il y a 2000 ans, Patanjali, probablement, en fait, est-ce un collège de yogis qui se sont réunis, qui ont créé ce texte, qui est un petit bréviaire assez court. En fait, il pose les bases du yoga, qui est à ce moment-là de la méditation. Il y a 2000 ans, le yoga a très peu de postures, ou du moins la posture pour permettre la méditation. Et ceci, toujours dans le même objectif, de générer en soi un état de calme et de paix. Et c'est comme cela que le propose Patanjali. Et c'est au fil des siècles, qu'il va s'agrémenter de postures, d'enchaînements, de respirations plus sophistiquées, voire encore d'autres exercices.
Et vous avez raison, le yoga ne se résume pas à des exercices physiques spécifiques, que l'on appelle asana. On y retrouve également des exercices de respiration, les pranayamas, de la méditation, une alimentation végétarienne. Et puis on oublie trop souvent que le yoga, c'est d'abord une philosophie de vie. Quel est le but ultime de cette philosophie de vie ?
Vraiment de retrouver la sérénité. Mais la philosophie, n'est-ce pas justement l'amour de la sagesse, de la compréhension ? C'est de prendre du recul, en fait, de reprendre du recul par rapport à notre existence, par rapport à nos émotions, de façon justement à ne plus se laisser emporter par ce courant de vie, ou du moins de lâcher prise pour pouvoir le vivre au mieux possible.
Alors le yoga connaît un engouement sans précédent, avec des centaines de millions d'adeptes partout dans le monde, pour des raisons diverses, peut-être d'abord pour des raisons de santé et donc de bien-être ?
Oui, je pense qu'effectivement, 70% des personnes qui pratiquent le yoga le font au départ pour des raisons d'équilibre, de bien-être, de santé. Après, il y a d'autres raisons qui viennent se mêler, mais beaucoup de raisons sont d'origine calmer l'anxiété, calmer les troubles du sommeil, les maux de dos, voilà pour les plus grandes indications, si je puis dire.
Qu'est-ce que le yoga n'est pas ? Je sais que vous êtes assez critique avec certains aspects du yoga contemporain.
Le yoga n'est pas du culturisme, le yoga ce n'est pas fait pour se regarder dans une glace, d'ailleurs il n'y a pas de miroir. On est dans un travail sur une matière intérieure, sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent. Donc je dirais, le yoga c'est une pratique intime qui peut se faire en groupe, hein, qui peut se pratiquer évidemment ensemble, parce que c'est dynamisant de pratiquer ensemble bien évidemment, mais c'est surtout pas une pratique pour se montrer, pour développer un aspect extérieur, c'est vraiment un développement intérieur.
Bruno nous écrit qu'il a du mal à s'y retrouver dans la variété de yoga proposée, Hatha Yoga, Ashtanga, Vinyasa, Bikram, Yoga, Iyengar, on a du mal à s'y retrouver.
Oui, moi-même j'ai du mal, il y a à peu près 45 pédagogies différentes aujourd'hui. Mais en même temps, ça montre quoi ? Pour moi, ça montre la diversité, ça montre la créativité de qu'est-ce que l'on peut faire avec son corps, la respiration et la conscience de son corps. Après, chaque école va porter le projecteur plus ou moins sur telle ou telle dimension, sur tel ou tel aspect. Mais si on garde les ingrédients qui sont pratiques, dans le respect de soi, en étant attentif à ce que l'on fait, corrélé à la respiration, en étant conscient de ce que l'on veut, et je rajoute quand même un critère important, dans la bienveillance de soi et des autres, il n'y a pas de problème, c'est du yoga. Et tout ce qui ne correspond pas à cette petite définition-là, il faut faire attention.
Dans quel courant vous situez-vous ?
Vraiment strictement du yoga, du Hatha Yoga, c'est-à-dire une implication du corps. Alors, en fait, historiquement...
C'est quoi exactement le Hatha Yoga ?
Merci. Voilà, je pense qu'il faut le redéfinir. En fait, à l'origine, le Hatha Yoga, c'est le yoga qui implique le corps. Parce qu'il y a, certes, on vient de citer différents types de yoga aujourd'hui qui impliquent le corps. Mais le yoga peut se pratiquer même sans le corps. Alors, vous voyez, on va encore agrandir un peu l'espace. Mais si on se restreint aux différentes pratiques qui impliquent le corps, il y a une très grande diversité et toutes sont en fait du Hatha Yoga. Mais par l'usage, maintenant, on distingue différentes formes. C'est vrai, certaines formes qui vont se faire dans la chaleur, d'autres qui vont se faire plus en insistant sur la pratique posturale, d'autres plus sur la respiration, d'autres qui vont dire il faut rester longtemps dans la posture, d'autres qui vont dire il ne faut pas rester longtemps dans la posture. Bref, moi je dirais une variété qui peut s'adresser à tout le monde. Il faut être prudent parce que chaque forme de yoga ne s'adresse pas justement à n'importe qui, il faut la trouver. Mais en tout cas, pour moi, ça montre surtout ce qui est le plus important, justement, c'est la créativité, c'est la possibilité d'imaginer encore des choses 2000 ans après ces textes fondateurs.
Alors, qu'est-ce que la yoga thérapie que vous défendez et quels sont les bienfaits scientifiquement prouvés de cette yoga thérapie ?
Alors, je vais commencer par cette dernière question. Aujourd'hui, la véracité, ou je dirais l'ensemble des études scientifiques, médicales, universitaires, sont très nombreuses, pour dire que c'est efficace. Aujourd'hui, on n'en est plus à se poser la question, est-ce que le yoga est efficace ? On n'en est plus à se poser la question, comment faire pour que ce soit encore plus efficace, avec le minimum d'efforts, si je puis dire, trouver ce qui est le plus simple, ce qui marche le mieux. Mais aujourd'hui, on a des milliers d'études qui se font année après année.
Et les premières recherches sont donc menées en Inde ?
Alors tout au début, on peut dire les premières recherches sérieuses remontent à presque un siècle, dans les années 1920, faites par Gouneux, un médecin, qui avait envie de montrer que le yoga était une richesse culturelle indienne et qui avait un message important pour l'humanité, qui pouvait effectivement apporter d'autres choses. Il n'y avait pas que l'Occident qui était, avec la connaissance qui devait se répandre sur le monde. Donc le yoga a été prouvé progressivement à partir de cette époque-là.
Et ce qui est assez extraordinaire avec la pratique du yoga, c'est qu'on ressent les premiers effets, je dirais, dès les premières minutes. C'est-à-dire que les émotions, les tensions s'apaisent.
Oui, et c'est toujours assez... Et c'est toujours assez merveilleux, je dirais, pour un professeur de yoga, quand quelqu'un vient pour la première fois, alors c'est pas toujours le déclic instantané, mais quand ça se produit, et c'est très fréquent, comme vous venez de le souligner, c'est toujours assez merveilleux, parce que on se reconnecte à soi-même. Et c'est pas un mot, se reconnecter, c'est être dans la conscience de soi, et c'est comme une nouvelle renaissance. Et beaucoup de pratiquants vont dire, mais moi, la première fois que je me suis mis au yoga, ça déclenchait quelque chose, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti jusqu'alors.
Figurez-vous qu'après le match hier, j'ai fait quelques exercices de yoga.
On en avait
et oui, ça allait beaucoup mieux après ces quelques minutes de yoga. Alors Sébastien Boller, par quel mécanisme l'humeur et le stress s'apaisent dès les premières séances? Une équipe de chercheurs de l'université de Boston, dirigée par Chris Streeter, a mesuré le taux de GABA chez des sujets pratiquant le yoga 3 fois par semaine pendant 3 mois. Le groupe témoin faisait quant à lui des promenades à pied régulièrement pendant la même période. Alors, je précise que la molécule GABA, c'est une molécule messagère qui atténue l'excitabilité des cellules nerveuses du cerveau. Qu'a-t-on donc constaté ?
On a constaté que la concentration de GABA, donc de ce neuromédiateur inhibiteur, augmente dans le cerveau des personnes qui pratiquent le yoga régulièrement. Alors, c'est important parce que le GABA, c'est donc un neuromédiateur inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va diminuer l'excitabilité des neurones, alors qu'il y a d'autres neuromédiateurs comme le glutamate qui sont excitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter la transmission d'informations au niveau des synapses. Et l'équilibre entre excitation et inhibition dans le cerveau est très important, notamment pour la plasticité neuronale, la souplesse des circuits cérébraux, la capacité à créer des nouvelles connexions, à s'adapter à son environnement. Il y a notamment un déficit de GABA, souvent chez des personnes en dépression. Donc restaurer une bonne capacité de frein et pas seulement d'accélération dans nos synapses, c'est ça qui fait le caractère un peu dynamique du cerveau. Et donc c'est très très précieux. Et c'est un des aspects moléculaires. Il y en a d'autres dont on pourra parler avec Lionel Coudron, comme la libération de facteurs de croissance. Et se pose la question par quoi ça passe, cette libération de GABA. Alors pour le GABA spécifiquement, je ne sais pas si on a la réponse, mais en tout cas tout part quand même en grande partie, et ça on pourra peut-être en reparler, de l'activation d'une partie du système nerveux autonome, qui est un système apaisant, le système parasympathique.
Christophe André.
Oui, tous ces travaux sont passionnants parce que si on regarde bien quand même, on a une sorte de famille, d'approche qu'on pourrait appeler d'approche corps-esprit, qui va du yoga à la méditation, en passant par le tai chi. Et l'idée de ces approches, c'est d'apprendre aux gens à tourner de nouveau leur attention vers ce que peut faire leur corps pour eux et ce qu'ils peuvent faire pour leur corps. Prendre conscience du corps, parce que dans la méditation, on travaille beaucoup avec le corps, évidemment dans le yoga, sous forme de travail sur les postures, la présence à la posture, aussi dans le tai chi, sous forme de présence à des mouvements très lents, très doux. Donc on est loin de l'idée de performance musculaire, de performance physique, mais on est dans une réhabilitation d'un rapport plus sain à notre corps, qu'on avait eu tendance un petit peu à oublier dans nos sociétés contemporaines, avec le problème de nos modes de vie un tout petit peu toxiques à ce niveau-là.
Oui, de façon à travailler sur ce que l'on ressent, et lorsque l'on a justement la capacité dans son corps de ressentir un état de calme, et ça se traduit vraiment concrètement par une sensation corporelle qui, pour bien le comprendre, va à l'inverse justement des sensations de tension, de crispation, de blocage, de nœud à la gorge, de boule au ventre, d'oppression thoracique, toutes ces sensations qui indiquent justement ce que les yogis diraient, que l'énergie, la vie ne circule pas librement, et ce que nous on traduit en termes plus scientifiques par l'émotion est apaisée, donc on ressent une sensation contraire de liberté, de joie intérieure. Et c'est cette sensation qui est directement corrélée au cerveau et qui permet cette interaction et de libérer ces substances apaisantes. Et ces substances apaisantes amènent une sensation de calme dans le corps et ça fait justement boule de neige.
Et tout doucement, tu viendras remonter ton bassin vers le ciel.
Sur ses papiers d'identité, Madeleine a 72 ans. Mais dans son corps, dans son esprit, elle a la sensation d'en avoir 32 moins. Cette vitalité, elle la doit au yoga qu'elle pratique tous les jours depuis une vingtaine d'années.
Le matin, on est rouillé même alors qu'on vient de dormir. Donc si vous faites des étirements, vous réveillez votre corps. C'est une autre sorte de douche en quelque sorte.
Ce centre de yoga accueille chaque année 20% d'élèves supplémentaires. Toutes les générations, toutes les classes sociales s'y côtoient.
Moi, je suis encore étudiante. Et c'est vrai que, on est inquiet pour notre avenir. Et on a beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Et je trouve que le yoga me permet vraiment de m'apaiser.
En sanskrit, yoga signifie union du corps et de l'esprit. Développé en Occident depuis les années 60, le yoga serait né en Inde il y a plus de 5000 ans.
Expire.
Les postures, appelées asanas, ont toute une fonction précise.
Dans la posture sur la tête, on soulage tout le système veineux, on irrigue le cerveau, et comme le cerveau c'est la cabine de pilotage, on fait du bien à tout le corps.
Moi j'ai vraiment un bonheur intérieur par rapport à il y a 15 ans, où j'avais des hauts et des bas, j'étais suicidaire même à l'époque, et là maintenant j'avoue que tout coule.
Extrait du JT de TF1 en 2013 et nous accueillons Florent Dulon, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes infirmier psychiatrique et vous avez animé des groupes de méditation et de yoga à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Depuis janvier, vous travaillez à l'hôpital psychiatrique d'Angers. Quelle est la place du yoga pour accompagner les patients qui vivent un épisode dépressif ou les patients anxieux ?
Alors oui, depuis janvier, donc j'exerce au CESAM, à l'hôpital psychiatrique d'Angers. Et ben je suis en fait sur deux endroits différents, un centre d'activité thérapeutique pour des patients hospitalisés et puis un centre de rétablissement, ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale, le centre Orion. Et donc c'est dans le cadre de ces deux lieux que je fais le yoga pour les patients avec beaucoup d'effets thérapeutiques du yoga qui sont ressentis pour eux dès la première séance, en fait.
Sous quel protocole et qu'est-ce que vous constatez
Alors, en fait, les patients qui sont suivis ou hospitalisés en psychiatrie, ils ont besoin vraiment de se reconnecter à leur corps. Ils sont souvent tout le temps dans leur tête, à cause des ruminations. Et du coup, le yoga, qui est quand même la science, on pourrait dire, ou l'art de la respiration, hein, puisque c'est vraiment la respiration qui va conduire à la posture, va leur permettre cette détente à la fois physique et psychique.
Christophe,
donc c'est une excellente... Pardon.
Oui. Moi, j'ai travaillé avec Florent à Sainte-Anne, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Et ce que nous avions pu voir également, mais Florent pourra compléter, c'est que parfois, pour certains patients qui venaient demander à faire de la méditation, le yoga était une porte d'entrée plus accessible pour eux, parce que la présence à la posture, la présence aux tensions ou aux détentes musculaires était quelque chose de peut-être plus accessible. Et en ce sens, c'est vrai que le yoga apporte quelque chose de très ouvert à quiconque a besoin de se reconnecter à son corps.
Florent Dulon ?
Oui, tout à fait, en fait. C'est d'autant que, déjà, la pratique du yoga va renforcer l'attention, la concentration. C'est vraiment le mouvement associé à la respiration. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans la compétition, dans la performance, pas du tout dans le forcing. Beaucoup d'attention au ressenti corporel, au vécu respiratoire. Et finalement, c'est vraiment un exercice concret de bienveillance. Donc c'est très important pour des patients qui souffrent de dépression. Et ça par exemple, pour tous les problèmes liés à l'estime de soi, au processus de rumination anxieuse et dépressive, le yoga est vraiment excellent.
Docteur Lionel Coudron, comment la science explique les effets bénéfiques de la yoga-thérapie sur la dépression ?
Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une pathologie psychiatrique qui n'implique pas le corps. Cela se traduit inévitablement par un état émotionnel, un ressenti, un état dans le corps. Et en agissant sur ces tensions corporelles, on va instantanément agir aussi sur l'état dans lequel on est, et donc les pensées, et l'on va justement apaiser, diminuer les ruminations mentales, les pensées noires, négatives, et l'on sait que la dépression est corrélée au nombre de pensées négatives que l'on peut avoir. Donc ça va, par exemple, par ce biais-là, intervenir.
Merci beaucoup, Florent Dulon, d'avoir participé à cette émission. Sébastien Boller.
Oui, j'ai eu une illumination en entendant Lionel Coudron m'expliquer comment le corps agit sur l'esprit. Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'était assez simple. Si on revient à la dépression, vous avez des pensées tristes et en même temps, ce qu'il m'expliquait très bien, c'est qu'il y a une posture qui va avec, il y a des traits du visage qui sont affaissés, enfin, il y a le sentiment de poids sur les épaules et donc, il y a une traduction corporelle de l'émotion. Mais ce qu'on sait depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années, avec un courant de recherche qui s'appelle la cognition incarnée, c'est que tout changement de posture du corps, à rebours, va aussi se connecter à l'émotion, parce que ça va dans les deux sens. Il y a une fameuse expérience, l'expérience du stylo entre les dents, qui est très très drôle. Ça, vous donnez un stylo à des gens et vous leur dites vous allez tenir le stylo entre les dents sans toucher avec les lèvres. Et sans le savoir, ils forment un sourire. D'accord ? Et après, on leur fait passer des questionnaires d'humeur, on se rend compte qu'ils sont de bonne humeur. Donc le simple fait d'avoir fait les contractions musculaires de la bonne humeur crée l'émotion de bonne humeur. Alors tout ce que nous raconte Lionel Coudron sur les postures du yoga, c'est qu'en agissant sur le corps, on va agir sur l'émotion. Et ça, c'est un changement civilisationnel majeur, ça montre vraiment qu'il y a un lien nerveux entre le corps et la pensée. Ça rejoint les travaux d'Antonio Damasio qui ont révolutionné notre vision traditionnelle platonicienne de Descartes qui séparait le corps et l'esprit.
Oui, l'émotion, elle est peut-être dans la tête, mais en fait, pour moi, l'émotion, elle est dans le corps. C'est le corps qui exprime l'émotion, c'est le corps qui vit l'émotion, même si elle est corrélée directement avec des centres qui vont pouvoir la commander. Et si tout simplement on fait cette expérience en méditation, et c'est vraiment asana, c'est la posture de base. Asana, ça veut dire axe, ça veut dire assise, ça veut donc dire être dans son axe vertical. Eh bien, comme on le dit, comme le dirait Christophe André ou John Kabat-Zinn, si l'on est dans cet axe vertical et que l'on occupe une posture digne, eh bien, cette dignité, c'est-à-dire on va occuper l'espace avec son corps, on ne va pas se rabougrir, on va laisser notre corps s'ouvrir, on se redresse, et je vois qu'on le fait tous en même temps.
Je suis digne,
parfait.
Je suis assis dignement.
Et je suis convaincu que la sensation est différente.
Et je passe la parole à notre camarade Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, les bienfaits, vous l'avez dit, sont immédiats. Voilà, Alice se tient droit, là il est bien, il est en pleine forme. Mais quand même, comme toute pratique, alors ce n'est pas sportif bien évidemment, mais je pense au sport. Lorsqu'on arrête, eh bien, les muscles fondent, la graisse réapparaît. Dans le cas du yoga, est-ce que l'arrêt de cette pratique induit effectivement la fin aussi de ses effets ? Sont-ils durables véritablement, même lorsque, pour quelle que soit la raison, on arrête quelques semaines, quelques mois ?
Très intéressant.
Il y a des effets qui vont perdurer et puis il y a des effets qui vont s'estomper. C'est tout à fait naturel et ça nécessite un entretien régulier. Tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, pour ma part, il faut repasser tout ce qui s'est froissé. Sinon, ça vient à nouveau. Et on le voit très bien au mois de septembre, quand les élèves reprennent les cours de yoga, ils disent « j'ai pas pu faire de yoga, ça m'a manqué ». Il n'y a pas eu un manque sur le plan, dans le sens d'une dépendance, d'une addiction, mais ils se sentent mieux en le pratiquant. Donc il y a quand même quelque chose qui va s'entretenir. Et oui, vous avez raison, si on arrête cette pratique, au même titre que la méditation, que n'importe quelle autre pratique, j'arrête de faire du piano, je vais perdre ma vélocité, je vais perdre l'exercice que j'ai eu, mon entraînement tout simplement.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec quelques exercices simples de yoga à réaliser chez soi pour retrouver calme et sérénité. Je vous propose d'écouter Vanessa Paradis, Divine Idyll. On vit une Divine Idyll, hein, Marie-Laure, Christophe, depuis quelques années.
Absolument, je n'ai pas de mots. Thank you.
Vanessa Paradis, Divine Idylle.
Pardon, excusez-moi, il sent un peu le chien mouillé, mon tapis. Le vôtre, ça va ?
Grand bien vous fasse.
On a quand même l'air très con, non ?
Vous pouvez respirer moins fort, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture.
Dalai Lama, j'ai une crampe.
Sur France Inter.
Faut vraiment être prêt à tout pour atteindre la plénitude.
10h33 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits du yoga sur le cerveau et sur certains troubles psychiques hein, comme la dépression. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Je vous propose d'écouter l'écrivain Emmanuel Carrère en 2018 sur France Culture.
C'est une discipline physique absolument formidable dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. La pratique purement physique, proche du sport, de choses comme ça. C'est une espèce de premier étage d'une sorte de tour qui en comporte pas mal. Le yoga a été codifié, je sais pas, il y a 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ par un personnage plus ou moins mythique qui s'appelait Patanjali. Il y a un petit volume comme ça qui s'appelle les Yoga Sutras qui disent ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est la cessation des fluctuations mentales. C'est ça que ça vise, le yoga. Alors, il est certain que je veux dire qu'on passe quand même le plus clair de notre activité mentale à sauter d'un truc à l'autre à toute vitesse dans une espèce de centrifugeuse ininterrompue, et que déjà le yoga a comme visée de calmer un petit peu ça. Et ça se fait au départ par la pratique physique. Et petit à petit, en s'affinant, elle a cet effet sur le mental. Ensuite, le yoga, c'est quand même une espèce d'exploration des processus de la conscience.
L'écrivain Emmanuel Carrère en 2018 sur France Culture. Christophe André, vous aviez lu hein, son fameux yoga.
Oui, j'avais lu et apprécié. C'est un livre extrêmement fin sur ce que peut apporter le yoga, alors surtout aux processus mentaux, effectivement. Comme le dit Emmanuel Carrère, lui, c'est un intellectuel, il est passionné par le fonctionnement de son cerveau. Et il décrit très finement tout ce que sa pratique du yoga, alors avec cette porte d'entrée, une fois de plus, par le corps, par les postures, par la présence à ses sensations physiques, tout ce que ça peut apporter à la compréhension et à la pacification de son esprit, de notre esprit. Et ce livre est Et je le recommande évidemment à toutes les personnes qui s'intéressent à tout ça.
Docteur Lionel Coudron, dès les premières études scientifiques, on a montré un effet stimulant du yoga sur le système parasympathique, ce système qui permet un retour au calme.
Oui.
Expliquez-nous.
Oui, et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'on ne s'en rende pas plus compte de son bénéfice et de son intérêt. En fait, quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui ont créé des stimulateurs, des pacemakers spécifiques pour stimuler le parasympathique, tant on s'est rendu compte qu'un défaut de ce fonctionnement, de ce système qui permet d'équilibrer les organes, en fait, hein, le parasympathique, il permet de récupérer dans son organisme, d'apaiser le cœur, d'apaiser la respiration, mais aussi de stimuler la digestion. Eh bien, on s'est rendu compte également qu'il a une action importante sur le système immunitaire et qu'il diminue l'inflammation. Et ainsi, on le voit arriver de plein pied dans des pathologies comme les rhumatismes inflammatoires, comme l'épilepsie, comme les maladies chroniques intestinales inflammatoires, si bien qu'en renforçant ce parasympathique, on va diminuer l'intensité de ces maladies, de ces pathologies. Et la posture, la respiration, mais aussi la relaxation, la méditation, permettent de renforcer ce parasympathique.
Sébastien Boller de Cerveau et Psycho, diverses recherches sur le yoga montrent une augmentation du volume de matière grise du cerveau, c'est-à-dire une augmentation de la densité des neurones et de leurs connexions, les connexions qu'on appelle les synapses. Racontez-nous l'impact de ce bonus de matière grise lié à la pratique du yoga.
Oui, alors ce sont des augmentations de matière grise, principalement dans certaines zones, dont l'hippocampe, qui est une zone essentielle pour la mémorisation. Quand vous apprenez des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, tout ça va rentrer au départ par votre hippocampe. Donc c'est une petite partie du cortex cérébral vers l'intérieur de la tempe. Et on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de corps cellulaires et de synapses qui sont formées dans cet hippocampe, comme si on était programmé pour mieux mémoriser, pour mieux se repérer dans l'espace aussi. Et ça, c'est donc la matière grise. Vous savez qu'il y a la matière grise et la matière blanche dans le cerveau. Historiquement, c'est lié à des histoires de colorants pour les mettre en valeur et en évidence au début des études d'histologie. La matière blanche, ce ne sont pas les noyaux des neurones, ce sont leurs câbles, leurs axones qui permettent de connecter à distance plusieurs aires cérébrales. Et on voit aussi que la matière blanche, ça c'est des études plus récentes, est renforcée par la pratique régulière du yoga. Et ça, c'est très important parce qu'elle permet la synchronisation des différentes aires cérébrales. Donc là, on rentre dans le domaine de la conscience. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les états de conscience, de pleine conscience, sont des états où il y a plusieurs zones du cerveau qui se synchronisent grâce à ces câbles de communication à distance. Donc le yoga permet de les maintenir aussi, parce que ça c'est très important dans la perspective du vieillissement. C'est que la matière blanche a tendance à s'éroder, à se fragiliser avec l'âge, alors que le yoga, on le sait maintenant grâce à des études d'IRM morphologiques, maintient ces câbles de matière blanche en meilleur état plus longtemps.
Christophe André.
Oui. Ben, c'est vrai que toutes ces découvertes montrant, par exemple, que le yoga a un impact sur la neuroplasticité et la zone du cerveau où on peut voir très clairement la neuroplasticité, c'est effectivement cette hippocampe là dont parlait Sébastien. C'est très précieux parce qu'une fois de plus, c'est comme pour la méditation, ça valide au fond la pertinence d'intuition qui ont émergé de la tradition et ça confirme qu'il y a un réel impact biologique. Mais l'impact sur le parasympathique dont parlait Lionel Coudron, il est fascinant parce que c'est une sorte d'autoroute qu'on va mettre en marche, d'autoroute du bien-être, de l'apaisement intérieur, aussi bien par la marche dans les bois que par le yoga, que par la méditation. Et c'est vrai que les travaux, les générations de travaux à venir vont être à propos de la spécificité éventuelle ou non du yoga par rapport aux balades en forêt, par rapport à la méditation, parce que toutes ces pratiques qui nous reconnectent à la nature environnante ou la nature de notre corps, ont finalement des conséquences communes sur la pacification liée au système nerveux parasympathique.
Et Christophe, est-ce que vous auriez jusqu'à dire qu'on vit dans une société qui met l'accent sur le sympathique à fond et qu'il y aurait peut-être un besoin de toutes ces disciplines qui vont sur le parasympathique à cause de ça?
Petite précision sur le système sympathique et parasympathique.
Oui, bah ce
qui
sont
peut prêter à confusion.
Voilà, c'est les systèmes nerveux qui sont autonomes, c'est-à-dire qui n'obéissent pas à notre volonté immédiate. Hein. Il y a un système nerveux moteur, par exemple, qui fait que je lève la main, que je baisse la tête, etc. Et un système nerveux autonome qui, pour le système nerveux sympathique et celui du stress. Quand je suis stressé, sans le décider, ce système nerveux commande à mes muscles de se tendre, à mon cœur de s'accélérer. Et le système nerveux autonome de la pacification intérieure, le parasympathique, et lui aussi, sans que je le décide, il suffit que quelqu'un me tienne la main, il suffit que quelqu'un me masse, il suffit que je me mette à respirer lentement, que je marche en forêt, et tout à coup, ça va apaiser mon corps biologiquement.
Alors on l'a dit, le yoga permet une prise de conscience de son corps, de ses émotions, de son esprit. Quel est le rôle de la respiration dans cette prise de conscience, Lionel Coudron?
La respiration est toujours présente avec la posture, avec également la concentration. Et l'on va en fait, je dirais presque, prétexter des mouvements pour ralentir la respiration. La respiration, on peut l'avoir sur plein de modes, mais essentiellement à travers la fréquence respiratoire. Et en modulant notre fréquence respiratoire, on module notre amplitude respiratoire. Et le simple fait de ralentir la respiration a un effet parasympathico-tonique, va donc apaiser. À l'inverse, je suis stressé, je suis anxieux, je suis dans un état de stress post-traumatique, je suis figé, ma respiration se bloque, je ne respire plus correctement. Et soit je vais ralentir cette ventilation, soit je vais l'accélérer, et plus je vais respirer vite, et plus je vais être anxieux. Et il y a une corrélation directe entre anxiété et fréquence respiratoire.
Docteur Coudron, une posture simple à expérimenter dès ce soir, avant de se coucher, ou demain au réveil, pour abaisser son anxiété, son stress. Est-ce qu'il y a une technique simple qu'on peut mettre en œuvre facilement?
Le plus simple, c'est d'observer les animaux. Si vous avez un chien, un chat, vous l'avez vu plusieurs fois par jour s'étirer. En fait, il fait ce que la nature nous permet également de faire.
Christophe André est en train de s'étirer.
Et bien voilà, c'est ce que l'on appelle la pendiculation. Il faut que vous reteniez ce mot parce qu'il n'est pas suffisamment connu ni des médecins, ni des vétérinaires, ni des pédagogues. La pendiculation, c'est j'inspire en m'étirant. Mais pas n'importe comment, comme le fait votre chien, comme le fait votre chat. C'est-à-dire en creusant le bas du dos, en tendant les bras, les jambes et en contractant au maximum. Et comment ? Synchroniser à quoi ? À la respiration. J'inspire, je retiens le souffle, je contracte tout mon corps, comme je viens de le dire, mais en allant chercher la sensation agréable. Si jamais vous faites ça en ayant mal et que vous grimacez, vous passez à côté du yoga. Enfin, vous passez à côté de l'objectif. Je j'ouvre une parenthèse pour dire, le yoga, ce n'est qu'un mot. Derrière le mot yoga, il y a plein d'autres méthodes, il y a plein d'autres possibilités. Je referme la parenthèse. Eh bien, je vais faire cette pendiculation, qui pour moi est le béaba du yoga. Tout le monde le fait sans s'en rendre compte, au lever, quand on a besoin de se retrouver un peu, se concentrer. Je m'étire, puis j'expire en bâillant. J'ouvre grand la bouche, je permets comme ça de contracter tous les muscles du visage, je relâche, et là, j'ai piégé toutes mes tensions, je les ai éliminées, et je suis à nouveau disponible.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Quand j'étais petit garçon, il y avait chez mes parents un livre sur le yoga. Et je l'aimais beaucoup parce qu'on y voyait de nombreuses photos d'une assez jolie dame en tenue moulante en train d'y accomplir mille et une postures exotiques.
Calmez-vous.
C'était... Ah ben, les petits garçons sont très intéressés par les jolies dames quand même. C'était un premier contact réussi, mais davantage grâce aux formes de la dame que grâce aux vertus du yoga. Ma deuxième rencontre avec le yoga se produisit bien plus tard à la suite de lumbago à répétition. Je découvris alors que j'étais raide comme une planche et que j'avais intérêt à gagner un peu en flexibilité. Ce que je fis. Et à la suite de quelques cours et quelques stages, je n'eus plus ou presque plus de lombalgie. La troisième rencontre, ce fut à l'hôpital Sainte-Anne, grâce à mon ami Florent, infirmier et professeur de yoga, qui animait des groupes à l'intention de nos patients, auxquels cette pratique faisait un bien fou, si j'ose dire. Puis, à force de lecture, j'ai découvert que le yoga n'était pas seulement une sorte de gymnastique douce et exotique, mais aussi une philosophie de vie. Du moins, une philosophie du rapport à soi et à son corps, dont les origines indiennes apportaient un souffle nouveau à notre manière occidentale d'envisager les rapports entre le corps et l'esprit. Si la flexibilité du corps est précieuse, celle du cerveau l'est plus encore. Et oui, la flexibilité psychologique est une compétence précieuse que l'on commence à étudier de manière approfondie. Il s'agit de la capacité à assouplir ou parfois modifier certaines habitudes de pensée, certains préjugés, certains stéréotypes, certaines manières de raisonner. Je dis bien certaines habitudes et certains préjugés parce que justement, les recherches scientifiques montrent que notre esprit a besoin, pour nombre de situations quotidiennes, de disposer d'automatismes de pensée qui nous permettent de réagir vite en économisant le passage par de longues délibérations intérieures. Mais tout de même, dès que les situations deviennent plus compliquées, notamment dès qu'il s'agit d'échanges entre humains, nous avons évidemment grand intérêt à ne pas laisser notre esprit aux mains de nos préjugés. Ainsi, si je croise dans la forêt un monsieur moustachu, vêtu d'un treillis, porteur d'un fusil, le stéréotype chasseur va très vite surgir à mon esprit et orienter ma manière d'entrer en contact avec lui, le choix de mes sujets de conversation, voire mon jugement sur sa personnalité tout entière. Mais ce stéréotype ne me permettra pas de découvrir éventuellement que ce monsieur joue aussi du violon, qu'il est un lecteur assidu de Descartes, voire qu'il ne tire presque jamais sur du gibier, mais qu'il s'habille comme ça pour le plaisir de prendre l'apéro avec les copains. Si je veux découvrir tout cela, je vais devoir faire preuve de flexibilité psychologique, ce qui consiste simplement à poser des questions, à écouter les réponses et à toujours se dire que les humains sont infiniment plus compliqués et intéressants que nous ne le pensons a priori. Questionner plutôt que parler, écouter, chercher à comprendre, ce sont des principes simples, simplistes diront certains. Mais regardons-nous faire, ou regardons ce qui se fait autour de nous. Pour simple qu'il soit, ces principes sont-ils si souvent appliqués? Une autre manière de travailler sa flexibilité psychologique, c'est la méditation, cette sorte de yoga mental durant lequel on passe beaucoup de temps à observer le fonctionnement de son esprit, à en débusquer les mille et une rigidités, à suspendre ses jugements pour voir si le réel nous apparaît alors différent. Le problème, c'est que c'est fatigant de se remettre ainsi en question et que ce n'est pas drôle de découvrir à quel point notre cerveau est encombré de stéréotypes, de raideurs et de préjugés. Mais il est encore moins drôle de leur être soumis sans même le savoir.
Et tout au long de l'été, vous pouvez réécouter Les choses vues de Christophe André. Christophe André, c'était votre dernière
Mais oui.
de la saison.
Eh bien, on peut dire les choses comme ça.
On vous retrouve évidemment à la rentrée. Tiens, on a reçu une carte postale d'une navigante d'Air France, Alexandra, grande fan de l'émission, et qui vous salue et salue également Marie-Laure.
Salut, voilà. En retour.
Voilà. Merci Alexandra. Allez,
dans un instant, on s'intéresse à d'autres pratiques psychocorporelles comme le tai chi. En attendant, je vous propose d'écouter Joy Crooks. Qu'est-ce que c'est bien ça, Joy Crooks qui interprète Feet Don't Fail Me Now.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi, sur France Inter.
Je sais que vous aimez mon anglais, Marie-Laure Sunshine.
Ah, je suis épatée.
Je sens l'ironie à chaque fois que je désannonce un titre en anglais. 10h51 et ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho, on s'intéresse aux bienfaits du yoga sur le cerveau et nous accueillons Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue. Quelle est votre réflexion Merci. Sur notre sujet du jour?
Alors, en tant que masseur ayurvédique, en fait, moi, je me suis formé en Inde il y a 7 ans maintenant au massage ayurvédique traditionnel indien, donc qui correspond à la médecine traditionnelle indienne, dont le yoga fait partie. Donc, il faut vraiment rappeler ça, que c'est une des 8 branches de la médecine indienne, le yoga, avec tout ce qu'on a dit sur la santé. Je pense que c'est un point essentiel à rappeler. Et je propose aussi des yoga massages qui sont un mix entre justement ce travail de respiration profonde et active et consciente de la part de la personne qui se fait masser. Et du coup, dans cette séance d'une heure et demie, 2 heures, on rentre vraiment dans l'essence du yoga et du corps qui prend conscience de lui-même pour se détendre, mais aussi pour se connaître autrement. Et le yoga, ça amène à ça, c'est un lent apprentissage. Et on comprend pas le yoga en 3 séances, voilà, parce que c'est assez total, vu que c'est aussi une philosophie. Enfin, bref, c'est cohérent avec tout ce que vous disiez. Et moi, ma question était sur l'éducation en France et les écoles. Parce que moi, j'ai massé beaucoup de gens. J'ai proposé des séances aussi en EHPAD. Parce que là aussi, on a un gros travail à faire. Le toucher, la respiration, on a un problème en France dans la santé française. Alors que c'est central, il faut vraiment reprendre conscience de cette partie centrale de la respiration, du toucher, de l'automassage, parce que tout ça, ça réduit notre bien-être et on doit prendre pouvoir de ça. Donc c'est à la fois un contrôle et un lâcher-prise. Et pour finir sur les enfants, voilà, moi j'ai vécu en Inde à Puri, le fait de voir que les écoles commençaient sur la plage pour les groupes d'élèves de 50, 60 élèves à 6 heures du matin. Et c'est la première chose qu'on fait à l'école, et ensuite on va en classe, vous voyez. Mmh. Et c'est 45 minutes de yoga quotidienne pour les enfants dès l'âge de 5-6 ans, et ce jusqu'à la puberté, où on les masse aussi, fait qu'on n'a pas du tout le même rapport au corps, et on devrait vraiment intégrer ça en France. Moi je l'ai fait dans des cours de français, où je donnais des cours de français, où je faisais 2 minutes, 3 minutes de yoga au début de chaque cours. Mmh. Et en fait, ça institue un truc très intéressant.
Et Magali, voilà. dans votre sens, Stéphane demande qu'est-ce que vous pensez du yoga pour enfants, docteur Lionel Coudron, dans le sens de la question de Stéphane?
Alors, il existe des écoles qui sont spécifiquement orientées sur l'apprentissage du yoga et de la pédagogie du yoga pour justement l'appliquer auprès des enfants. Parce que c'est une pédagogie un petit peu différente, mais... Le yoga, je suis toujours pour une démarche volontaire. Et vraiment, il faut qu'on y adhère. Donc, faire un yoga systématique, moi, je suis toujours un petit peu sceptique sur l'effet que ça va produire derrière. Mais il est vrai que quand on a un enseignant passionné et qui maîtrise bien la méthode, ça donne de très bons résultats auprès de ses élèves.
Merci beaucoup Stéphane d'être intervenu ce matin. Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, on aurait pu demander à Stéphane s'il avait des pratiquants hommes dans son cours, dans ses groupes, parce que c'est quand même majeur en France. 80% des pratiquants sont des femmes. Alors, pourquoi les hommes ne s'y mettent pas? Sont-ils réticents avec ce supposé manque de souplesse? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'apaiser leur esprit, de retrouver de la sérénité? Pourquoi? Je ne sais pas. Certains Kylian M n'auraient-ils pas eu la bonne idée de pratiquer quelques séances hier?
Ça nous aurait peut-être aidé avant.
Alors, c'est un fait. On constate effectivement que dans nos pays, sous nos cieux, la majorité des pratiquants sont des pratiquantes. C'est exact. Probablement, je pense que c'est à la possibilité d'être plus proche de ses sensations, plus proche de ce qui se passe dans notre corps, alors que les hommes sont souvent, au contraire, plus dans la compétition. On l'a vu tout à l'heure, ça ne fait pas très bon ménage avec le yoga.
Oui, moi ça fait penser surtout à l'accès aux émotions qui est très différent chez les hommes et chez les femmes. On sait qu'il y a des pathologies de coupure vis-à-vis des émotions qui sont fréquentes chez les hommes, l'alexithymie, la difficulté à se mettre en contact avec ces émotions.
Sébastien Bollard, vous êtes intéressé dans Cerveau et Psycho à une autre pratique, le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi né il y a 8 siècles en Chine. Le Tai Chi c'est la coordination et du souffle et qui montre de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Le Tai Chi ce sont des mouvements lents associé à un souffle profond, pour le dire vite.
Oui, on a l'image de ces personnes qui pratiquent ces mouvements un petit peu de combattants, mais au ralenti, comme ça, dans les parcs, le matin. J'avoue que j'ai été surpris de voir que derrière cette pratique, qu'on voit de l'extérieur, il y a des centaines d'études scientifiques très très poussées.
Que nous disent-elles?
Elles nous disent que c'est presque aussi recommandé qu'un traitement anti-hypertenseur, par exemple, que ça diminue la mortalité après une opération cardiaque ou des problèmes cardiovasculaires, que ça va augmenter la quantité de matière grise de nouveau dans le cerveau. Le cerveau devient plus gros de 1%. Ça paraît pas grand-chose, mais ça contient le cortex, qui est très petit par rapport au volume total du cerveau. Donc ça développe beaucoup le cortex, et spécialement des zones importantes pour la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique, c'est la capacité de se souvenir de ce qui s'est passé dans notre vie. Pour une partie du cerveau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, qui permet l'imaginaire, anticiper le futur, et pour une autre partie du cerveau qui permet de détecter et comprendre les intentions, les états mentaux d'autrui, donc la porte vers l'autre également. Et ce dont parlait aussi Christophe, je suis très content, c'est la flexibilité mentale, et notamment avec des tests très drôles, la capacité à changer de stratégie pour un même problème, et on rapproche ça du fait qu'il y a des mouvements qui doivent se faire à l'endroit et à l'envers, il faut arriver à inverser.
Et je sens que notre technicien à la console, Kevin Pelot, va se mettre au tai chi, au yoga. Il s'est beaucoup étiré ce matin. Il vous a imité, Christophe André. Conclusion rapide peut-être, Maître Yoda.
Non, mais tout ça, c'est l'avenir, sinon de la médecine, du moins de la santé. Plus chacun de nous pratiquera ce type d'exercice, tai chi, méditation, yoga, etc., moins les médecins auront de choses désagréables à faire parce que les gens auront vu leur santé se dégrader.
Docteur Coudron.
Oui, je pense que certaines cliniques ne s'y sont pas trompées, certaines institutions ne s'y sont pas trompées et intègrent maintenant la pratique du yoga sous forme de yoga-thérapie, puisque adaptée au patient, même au chevet du patient, au lit du malade, pour permettre une meilleure prise en charge globale.
Merci à tous, merci beaucoup Lionel Coudron. Je recommande la lecture de la yoga-thérapie, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Sébastien Boller, le nouveau numéro de Cerveau et Psycho, consacré au yoga, est passionnant, hein, Christophe. Hein.
Excellent.
Merci également Marie-Laure Zonschein pour cette saison passée ensemble. On se retrouve à la rentrée avec grand plaisir.
Avec plaisir, je vais me mettre à la pendiculation d'ici là.
Merci Christophe André pour cette cinquième saison passée ensemble. Demain, à quelques jours des grandes vacances, on s'intéresse aux bienfaits de la nature, de l'extérieur, chez les enfants. N'hésitez pas à